Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Bonjour Corinne Gérieux, ravie d'être recevoir aujourd'hui à Grammaire fantôme. Donc ça fait longtemps qu'on y pense. Là c'est l'occasion puisque tu as sorti un livre. L'idée c'est d'avoir de première main un retour sur le livre que tu viens d'éditer.
Ouais, ben merci Nadia de m'inviter. Donc je me présente. Alors, je suis donc enseignante aux Beaux-Arts de Montpellier, Moko Esba, et j'enseigne l'histoire de l'art. Voilà. Et par ailleurs, j'ai aussi une petite maison d'édition avec Audrey Plancher qui s'appelle La Cabane, parce que c'est pas tout à fait une maison d'édition, c'est une cabane d'édition, parce que c'est très modeste. Et à l'origine, cette maison d'édition avait pour ambition de publier des livres d'artistes, notamment avec les anciens et les anciennes des Beaux-Arts de Montpellier. Et puis là on a créé une collection particulière, Capitel, pour éditer des essais, puisque j'ai fait un essai. Alors l'essai, est parti d'une réflexion que je me faisais moi en tant qu'enseignante, qui était que à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, on a beaucoup d'étudiantes, et que moi je leur parlais essentiellement d'hommes peintres, d'hommes sculpteurs, et je trouvais ça pas logique de ne pas montrer d'exemple suffisant à ces jeunes femmes, et donc je me suis demandé pourquoi j'avais du mal à trouver des artistes femmes dans l'histoire de l'art, pourquoi c'était si compliqué de démasculiniser mes cours. Donc j'y réfléchis juste pour moi en fait au départ, et puis finalement, comme je ne trouvais pas les réponses, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'écrire quelque chose là-dessus. Donc j'ai fait cet essai qui s'intitule « Il y a plus inconnu qu'un artiste inconnu, sa femme artiste », pardon, et qui reprend, en fait, qui détourne le slogan d'une banderole qui avait été déployée sous l'Arc de Triomphe en 1970, si je ne me trompe pas, et qui était « Il est plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Et en fait, cette action marque le début du MLF, le mouvement de libération de la femme. Donc voilà, je m'inscris doucement dans un mouvement féministe, même si le livre se veut militant, mais avec essentiellement des faits. Et il me semble que les faits parlent d'eux-mêmes. Donc j'ai pas besoin de mettre des points d'exclamation partout et de m'énerver toute seule dans mon livre. De toute façon, ce que j'écris, je trouve, est suffisamment éloquent.
Alors raconte un peu quels sont les différents chapitres, comment tu as abordé le sujet qui est quand même extrêmement vaste.
Oui, alors déjà l'idée c'était de faire un petit livre, parce que j'avais envie que ce soit un livre qui soit lu, et qui soit lu dans son entièreté, donc qui fait 160 pages à peu près, donc voilà. C'est l'idéal pour moi de lecture, si je puis me permettre. En tant que lectrice, j'adore les bouquins courts qui font le point sur une question et que je lis en quelques heures, en un week-end. Donc j'ai voulu faire ça, et faire quelque chose de très clair, donc c'est le temps d'apprentissage des artistes femmes, la vie d'artiste, et au-delà de la vie de ces femmes, elles sont là aussi encore empêchées, donc il y a aussi la fortune posthume. Donc c'est un livre en trois parties, très clair, et à force de lire des biographies, des catalogues d'expositions, enfin voilà, plein d'essais, et pas que d'histoire de l'art d'ailleurs, j'ai noté au fur et à mesure les empêchements faits aux femmes, et ce sont des empêchements qui sont systémiques et qu'on peut retrouver dans la vie de toutes les femmes, en fait, toutes les femmes qui veulent un peu s'émanciper. On retrouve la même chose, enfin, il faut copier-coller vers d'autres, dans les autres domaines, mais en gros, c'est pareil, quoi, malheureusement.
Tu as pris des exemples concrets? Tu parles des artistes spécifiquement que tu as étudiés?
Oui, c'est ça, j'illustre, bon, par exemple, j'ai lu des livres, je ne sais pas, sur Sonia Delaunay, sur Anna Eva Bergman, sur Sophie Teuber-Harp, sur Berthe Morisot, enfin, etc., plein d'artistes femmes, et effectivement, je donne des exemples à chaque fois précis, et j'essaye d'en faire une généralité, de voir en quoi ça peut s'appliquer à d'autres femmes, et en général, ça s'applique, parce que ce sont des choses très banales, en fait. Mais c'est aussi, par exemple, l'habillement des femmes. Moi, j'ai fait 18e, enfin, surtout 19e et 20e siècle, mais ça commence un peu fin 18e. Mais c'est compliqué de sortir avec un chevalet sous le bras et son appareil, son attirail de peinture quand on a un corset, des jupons, voire des vertus gadins. Bon, ça, c'est un peu plus ancien, mais une crinoline, des talons qui font mal et des chaussures qui sont trop étroites parce qu'il faut surtout avoir des petits pieds. C'est pas possible, en fait, de travailler comme ça. Donc déjà, rien que cette observation-là, je me dis, ah oui, donc les femmes doivent peindre. Si elles peignent, c'est dans leur maison. Et donc, c'est des sujets du foyer, quoi. Donc déjà, ça contraint. Et puis, de toute façon, une femme ne sort pas seule dans la rue, alors encore moins pour stationner et pour travailler. Donc voilà, enfin, c'est ce genre de petites choses très précises qui, cumulées les unes avec les autres, font qu'on n'arrive pas à travailler.
Et tu le transposes aussi à aujourd'hui ?
Alors, ouais, parce que malheureusement, les artistes femmes qui ont lu ce livre, qui sont dans mon entourage, m'ont dit qu'elles s'y retrouvaient quand même. Alors, à une autre échelle, hein, mais le fait de ne pas pouvoir stationner dans la rue, par exemple, ce que je citais, bon, bah, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, on n'a pas tout, on voit pas tous les jours des peintres hommes avec un chevalet dans la rue, certes, mais on peut avoir d'autres pratiques d'écriture, de photographie, et je pense que c'est toujours plus compliqué pour une femme de stationner dans l'espace public que pour un homme. Donc déjà ça, ça empêche aussi. Mais il y a toutes sortes de choses comme ça où... et puis les empêchements qu'on se fait à soi-même aussi, qu'on n'ose pas parfois, on n'ose pas prendre du temps sur le temps de la famille, par exemple, pour son propre travail. Enfin, toutes ces choses-là qu'on s'impose et que les autres nous imposent et qui sont en fait imposées par la société.
Alors, dans le cas de Anna Eva Bergman et Hatou, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu...
Alors, Anna Eva Bergman et Hans Hartung étaient effectivement un couple d'artistes. Je vais ne pas faire trop de détours, mais donc, dans leur vie de couple, c'était plutôt Hans Hartung. Il était plus âgé qu'elle, était déjà plus connu. Donc, c'était plutôt lui qui brillait, disons. Et donc, c'était lui qui occupait l'atelier de la maison. Elle occupait la cuisine. Donc, évidemment, les formats étaient plus petits. Évidemment, elle devait ranger quand il fallait manger. Donc déjà, on n'a pas la même ambition, hein, c'est pas possible. C'est elle qui gérait le ménage, donc elle gérait les courses. Donc c'était elle qui allait quémander auprès des épiciers, enfin de tous les commerces de bouche pour avoir du crédit. C'était pas Hans Hartung qui allait faire cette chose assez humiliante et dégradante. Donc en fait, c'est elle se consacrait à son travail, mais aussi au travail de son mari. Elle encadrait, par exemple, ses travaux. Elle le faisait pour lui. Bon, après, il semblerait que dans un autre ouvrage, que je n'ai pas lu, mais ce que m'a raconté une lectrice, mais un ouvrage écrit par un homme, Hans Hartung se plaignait du fait qu'Anna Eva Bergman voulait tout faire dans la maison. Bon, voilà, moi, je n'ai pas lu ça, j'ai lu d'autres textes, dont des lettres de Anna Eva Bergman. Donc, Anna Eva Bergman va se séparer d'Hartung, pour pouvoir travailler et s'émanciper de cet homme qui lui fait trop d'ombre. Et donc là, elle va partir loin de lui, elle va travailler, elle va développer son travail pratique. Il faut dire aussi qu'elle était très malade, elle avait des gros problèmes intestinaux, en tout cas digestifs, qui faisaient que sa vie était faite de douleurs, quoi, et de séjours à l'hôpital, ce que Hans Hartung visiblement supportait mal aussi. Et en fait, ils vont se retrouver à la fin de leur vie, une fois qu'elle aura une carrière plus établie. En fait, ils s'aimaient toujours, donc c'est une belle histoire, et ils vont donc habiter à Antibes dans cette magnifique maison qui est incroyable. Et donc, ils vont finir leur vie ensemble.
Et quelles sont les études d'Anna Eva Bergman ?
Alors ça, je ne suis pas tout à fait au point sur ses études. Je sais qu'elle vivait de son travail de caricaturiste, qu'elle méprisait pas mal, alors qu'il est... Enfin, c'était certes de la caricature, mais elle a un très très bon trait, tu vois. Donc un artiste sûr de lui aurait pu dire, comme Daumier, que voilà, c'était un travail à part entière. Enfin, je ne crois pas que Daumier était très honteux de son travail de caricaturiste. Donc je trouve que son trait est vraiment intéressant. Ah oui, l'autre détail aussi que je trouve intéressant dans le travail d'Anna Eva Bergman, c'est qu'elle travaille aussi avec de la feuille d'or. Donc elle a des matières qui sont réfléchissantes et c'était problématique de les prendre en photo. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus simple, mais avec le matériel de l'époque, dans les années 50-60. Et donc le problème de reproduction de l'œuvre fait aussi que son œuvre est moins reproduite, évidemment. Donc moins partagée dans la presse. Voilà, il faut aussi penser à ça.
Oui, peut-être elle l'a fait exprès.
Oui, en tout cas, ça fait partie intégrante de son travail. Et puis, ce sont des images qui sont très édifiantes, quoi. Quand on est face à Anna Eva Bergman, c'est magnifique.
Oui, donc une œuvre qui est découverte tardivement.
Oui, je pense. Enfin, en tout cas...
Depuis une vingtaine d'années, peut-être.
Oui, Je sais pas trop. Là, il y a eu une belle exposition à laquelle je n'ai pas pu assister, que je n'ai pas pu voir, mais il y a eu une belle exposition il n'y a pas très longtemps. Après, elle est exposée donc dans sa fondation à Antibes et au musée Picasso à Antibes, sur les collections permanentes. Donc on peut voir du Anna Eva Bergman, mais ce n'est pas évident.
Elle a donc partagé la maison, mais c'est elle qui travaillait à la cuisine.
Oui, et ça se retrouve dans plein de couples aussi. Les couples... Alors, je n'ai pas... Malgré le titre, on pourrait penser que je n'ai travaillé que sur les couples d'artistes, mais ce n'est pas le cas. Mais dans les couples d'artistes, voilà. Mais la femme prend ce rôle-là, mais presque de fait, quoi. Elle prend le rôle de celle qui va permettre à son mari de faire œuvre. Et elle peint, enfin, ou elle sculpte, ou je ne sais quoi. Généralement, il y a plutôt des femmes peintres.
Après, il y a des exemples atypiques, comme Suzanne Valadon, qui, elle, elle a géré sa famille. C'est elle qui était la chef de famille, et elle était d'abord muse, et ensuite, elle est allée s'émanciper. Disons qu'elle-même peut peindre, et donc elle a commencé à peindre sous des pseudonymes. Parce que c'est pas son vrai nom.
Elle s'appelait Marie, puis Maria quand elle a fait du cirque. Elle s'est blessée, donc elle a arrêté. Elle a été modèle, effectivement. Donc elle a beaucoup appris en regardant les peintres travailler. Et c'est Toulouse-Lautrec, si je ne me trompe pas, qui avait beaucoup d'humour et qui lui a dit « Mais t'es là, nue devant tous ces vieillards, t'es comme Suzanne face aux vieillards », de le livre de Daniel. Et donc elle s'appelait Suzanne. Et Suzanne, c'est le moment où elle devient artiste, en fait. Et elle, en plus, elle se met en couple avec un très jeune homme. Donc, elle inverse complètement le mécanisme. Et je pense que c'était une femme au fort tempérament, ouais. Et c'est vrai que son fils est souvent plus connu, Utrillo, alors que sa peinture n'est pas forcément plus intéressante que Suzanne Valadon, mais bon. Et oui, elle a beaucoup aidé son fils, qui avait des gros soucis d'alcoolisme. Donc, elle avait ça à gérer. Et puis, elle avait donc son jeune amant, qui était d'ailleurs un ami de son fils à l'origine, et qu'elle a peint. Et là aussi, elle a fait des nus de ce jeune homme qui sont... Enfin, c'est des nus en majesté, quoi. Voilà.
C'est une transfuge.
Oui, transfuge de classe, bien sûr. Ouais.
Elle a réussi de se sortir d'une condition...
Oui, parce qu'elle était seule avec sa maman. Donc, voilà. Elle a été très modeste. Enfin, qu'elle a travaillé très tôt, d'ailleurs.
Donc, il y a comme ça des exemples qui sont édifiants dans l'histoire de l'art.
Et oui, toujours des contre-exemples, évidemment.
Ouais, et puis, effectivement, la condition plus commune qui perdure aujourd'hui, quand il s'agit de construire une carrière, on nous propose d'être plus humble, plus moins bruyant.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, dans les conseils qu'on donne aux jeunes femmes au 19e siècle, ou peut-être début 20e, si elles veulent être, pas forcément être artistes, mais au moins avoir une pratique artistique, ce qui est quand même très différent. On leur conseille la peinture, parce que la peinture, ça salit pas trop, contrairement à la sculpture. Et puis, ça peut se ranger facilement, en fonction des besoins de la famille. Donc voilà, ça, c'est les conseils qui sont donnés. Bon, voilà, on peut pas avoir une pratique sérieuse quand on a ça en tête. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire balayer tout rapidement, ranger son chevalet au moindre... Parce que l'enfant va se réveiller de la sieste ou je ne sais quoi. Mais c'était ça, quand même, la manière dont on envisageait les carrières féminines.
Même aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes femmes qui ont dû faire un choix. Ils n'ont pas d'enfants.
Oui, c'est ça. Alors après, le danger de ne pas avoir d'enfants aussi, c'est qu'à la postérité, il n'y a peut-être pas grand monde qui va s'occuper de garder des traces. Et, voilà. Par exemple, Germaine Richier, je pense que si elle n'a pas eu d'enfants, et si on la connaît beaucoup moins que, par exemple, Giacometti, alors qu'ils sont contemporains, qu'ils ont été à l'atelier de Bourdel tous les deux, qu'ils s'apprécient, enfin, etc., je pense que ça vient aussi du fait que, de toute façon, les maris, ils s'occupent pas trop de la postérité de leur épouse, de ce que j'ai pu constater, mais je suis sûre qu'il y a des exceptions. Et puis, s'il n'y a pas des enfants derrière pour dire, pour faire vivre l'œuvre de la mère, c'est compliqué aussi. Je suis sûre que Berthe Morisot, si elle est aussi connue, c'est parce que sa fille Julie a beaucoup, beaucoup œuvré pour elle après son décès. Elle a fait écrire des livres, des textes, elle a fait le récollement, hein, je pense, à peu près exhaustif. Enfin, j'imagine des œuvres de sa mère. Enfin, elle a beaucoup travaillé. Donc c'est important pour asseoir sa postérité d'avoir quelqu'un qui s'occupe de soi après notre décès.
Oui, il y a souvent des personnes des artistes qui font des fondations de leur vivant et qui ensuite gèrent déjà de leur vivant.
Mais il faut avoir une certaine idée de soi-même pour oser faire une fondation. Et ça, souvent, les femmes n'osent pas. Enfin, c'est aussi un problème pour les historiens et historiennes, c'est que les femmes écrivent, osent pas trop écrire sur leurs pratiques et donc publier, donc laisser des traces. Donc, il est nécessaire de laisser des traces. Donc, quand on change de nom en se mariant, bah, là aussi, on coupe une certaine chronologie. Enfin, en tout cas, il faut que les autres personnes qui vont suivre sachent quel était le nom de jeune fille et quel est le nom d'épouse. Donc, il faut écrire, il faut laisser des brouillons, il faut laisser des traces. Alors, de là, après, à créer sa propre fondation, ça demande...
De l'aplomb.
Ouais, beaucoup d'aplomb, ouais. Beaucoup de confiance en soi.
Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses d'Instagram, par exemple ? Est-ce que tu penses que c'est important pour les jeunes artistes femmes d'être présentes sur Instagram ?
Il me semble que c'est une manière de gérer son image. Je crois que c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Mmh. Instagram, les sites web. Après, il ne faut pas oublier les réseaux plus... j'ai envie de dire plus officiels. Mais évidemment, être dans une collection, c'est beaucoup mieux. Mais avant ça, comment on fait pour faire parler de soi ? Sûrement des bonnes photos sur Instagram, ouais. Je sais pas, en fait. J'ai pas encore la solution. Alors après, bon, moi, je suis quelques comptes sur Instagram et j'y tiens. Enfin, j'y vais, quoi. Enfin, ça m'intéresse. Mais ça peut aussi être un flux continu de tentations publicitaires, ouais. Mêlées à des œuvres d'art, ce qui est très curieux sur Instagram.
Et qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes artistes, femmes ?
Eh bien, de laisser des traces par tous les moyens, de décrire aussi, de bien classer. C'est très, très basique, mais déjà de bien classer dans son ordinateur pour laisser des choses nettes et claires. Je pense qu'il faut il faut se projeter dans le travail des futurs historiens et historiennes. Et donc, laisser des choses claires, peut-être laisser un journal... Alors sûrement qu'il faut être sur les réseaux, mais je pense qu'il faut aussi avoir un autre travail de clarification, quoi, de son propre travail, de ses pensées. Il faut laisser des traces, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais en fait on a besoin. Là, si j'ai envie de m'intéresser à une artiste, par exemple du début du XXe siècle, dont je connais à peine l'œuvre, ben je ne saurais pas où aller, par exemple. Donc il faut déposer ses archives, que ce soit la bibliothèque Kandinsky, donc la bibliothèque des chercheurs à Beaubourg, enfin le centre de documentation du Musée national d'art moderne, ou enfin j'imagine qu'il y a voilà plein d'autres endroits. Il faut déposer, je pense, ouais, déposer des archives.
Oui, parce que tout ce que sur Internet, ça disparaît aussi.
Et ouais, c'est ça. Le papier, ça reste pas mal, hein. La photographie papier, les catalogues, il faut faire des catalogues, il faut ouais. Malgré tout, je crois que le papier, c'est ce qui résiste le mieux pour l'instant.
Ouais, donc éditer, même dans les petites maisons d'édition.
Même dans les petites maisons d'édition, même de l'auto-édition, faire des choses, demander des textes à des gens. Ouais, je pense que c'est important.
Alors, un petit mot aussi sur comment tu as édité ton livre.
Alors, mon livre, je l'ai édité avec notre maison d'édition, c'est-à-dire que donc, je travaille avec Audrey Plancher qui avait très envie d'éditer ce livre, donc ça m'a beaucoup encouragée. Et donc on a pu comme ça choisir la couverture qui est dans des couleurs flambantes et ça me va très bien. On a pu choisir la typo, la police d'écriture qui a été prise donc sur un site de typographie libre et inclusive, même s'il n'y a pas le point médian et l'écriture inclusive. Et on a pu imprimer en France. Donc on est ravis.
Et tu l'as tiré à combien ? Vous l'avez tiré à combien d'exemplaires ?
On l'a tiré à 300 exemplaires. Donc ça reste une édition modeste, mais gérable.
Mais ça peut être réédité à tout moment ?
Ça peut être réimprimé à tout moment, ouais. Surtout que là, déjà, on a dépassé la moitié, donc alors que ça fait qu'un mois que le livre est sorti, donc on est contente.
Et comment on fait pour le commander ?
Alors, on peut le commander en allant sur notre site de La Cabane. Donc déjà, peut-être le plus simple, c'est d'aller sur la page Instagram pour trouver le lien direct. Il est en fait en vente à la librairie du Moco, à Montpellier, à la librairie de Carré d'Art à Nîmes, et puis donc sur notre site, et plus précisément sur le site de Hello Asso. Voilà, puisque c'est une maison d'édition associative. Et donc, c'est un petit bouquin qui coûte 12 euros. L'idée, c'était de faire un petit bouquin pas cher.
Alors, je vais me poser la question. Tout à l'heure, tu as parlé du titre du livre que tu as pris d'une photo. Peut-être tu peux nous dire un peu plus d'où viennent tes inspirations.
Bon, c'est vraiment mon travail d'enseignante aux beaux-arts hein, qui m'a motivée, qui m'a amenée à faire cette recherche. C'est Alors, c'est un travail vraiment d'historienne de l'art aussi, parce que j'adore ça, j'adore la recherche. Sachant que ici le positionnement, c'est que j'allais pas retourner dans les archives de toutes les artistes femmes, parce que c'était pas le propos. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre de l'urgence. Donc l'envie aussi, c'était de montrer que cette recherche, elle est très vive en ce moment, elle est très vivante, et qu'il y a plein de livres qui parlent des artistes femmes, des femmes en général, et qui posent la question. Bon, il faut bien savoir que ce qu'on appelle la révolution féministe, c'est quand même une révolution faite d'essais, d'œuvres d'art, de réflexions. Enfin voilà, on n'est pas allé couper les têtes et on les a pas mises au bout d'une pique. On est quand même... C'est une révolution très très pacifique et très intellectuelle. Donc j'essaye de m'inscrire là-dedans. Donc il n'y a que des faits, mais il y a surtout beaucoup d'ouvrages que j'ai lus. Je pense que j'ai réussi à me souvenir de tout et de tout mettre dans la bibliographie. Donc il y a aussi l'idée de créer un grand réseau comme ça de réflexions et de vraiment citer mes sources, évidemment. Parce que voilà, on est intellectuel, mais aussi pour donner envie d'aller chercher dans d'autres livres. Donc il y a vraiment cette idée de centraliser la recherche, mais pour impulser l'envie d'aller voir plein d'autres choses. Et de manière très modeste, en fait, enfin, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la reconnaissance de toutes ces autres chercheuses, parce que c'est plutôt des femmes, qui ont fait un travail formidable avant moi et qui m'ont aidé à avoir cette réflexion. Voilà, ça. Quelque chose de l'ordre aussi de... comme un carrefour, en fait. Et l'envie d'aller vers plein de directions.
Mais il y a aussi des expos qui t'ont influencé.
Oui, bien sûr.
Je me souviens qu'une fois que tu es revenue du musée de Luxembourg, c'était une expo autour des artistes femmes.
Oui, les années folles. Donc, c'était une exposition de Camille Morino. Hein. C'est voilà, celle qui a créé l'association EWARE. Donc ça, voilà, c'est fondamental. Et c'est vrai que cette exposition était hyper intéressante. Mais en fait, à chaque fois, je me plonge dans les catalogues. Donc c'est aussi toujours de la lecture qui suit. Donc il y a eu la grande exposition aussi à Beaubourg sur les artistes femmes de l'abstraction, où on se rend compte qu'elles ont fait de l'abstraction bien avant messieurs Kandinsky, Malevitch et Mondrian. Mais voilà, ce sont eux les pionniers. Et puis voilà, enfin, il y a eu beaucoup de. En ce moment, il y a beaucoup d'expositions. Voilà, les expositions, les Amazones du Pop aussi à Nice, au Mamac. Donc c'est très réjouissant. Mais il faut se souvenir qu'au tournant de la Révolution française, les femmes aussi avaient le vent en poupe. Et il y avait beaucoup d'artistes femmes et qu'on les a oubliées. On peut en citer très peu aujourd'hui. Je ne sais pas, Adélaïde Labille-Guillard, son nom m'échappe là tout de suite, mais bon, on peut en citer quelques-unes. Et il y a eu un retour de bâton parce que le code Napoléon et voilà, le code civil, donc toutes ces misères faites aux femmes pendant le 19e siècle, donc il faut rester vigilante. On ne peut que se réjouir et trouver ça très joyeux ce qui se passe en ce moment pour les artistes femmes et pour les femmes en général, mais on sait que c'est potentiellement très précaire aussi. Donc je m'inscris aussi là-dedans, dans ce mouvement très joyeux, mais très prudent.
Oui, ça c'est... Effectivement, ça donne à réfléchir.
Oui, ouais, parce qu'on n'est pas sur une montée comme ça, sans fin. Il est probable, et on le voit dans d'autres pays quand même, que les choses se tendent, en fait.
Oui, c'est fige, et puis il y a l'oubli. Il est possible que tout est anéanti.
Oui, et que tout s'oublie.
Et effectivement, qu'est-ce qui reste? C'est les archives. C'est les...
Et les œuvres aussi. Hein. Mm-hmm.
Ça, il faut... Les archives, autant des œuvres d'art que des écrits, des traces. Mm. Peut-être aussi à l'université.
Oui, c'est ça. Il faut aussi favoriser au maximum les mémoires faites sur les artistes femmes. Là aussi, c'est compliqué parce que ça veut dire... Bon, c'est plutôt des jeunes femmes qui se lancent là-dedans, mais ça veut dire qu'elles vont faire des mémoires avec très peu d'archives. Et c'est très compliqué. Elles se mettent vraiment des bâtons dans les roues avec parfois des enseignants ou enseignantes qui sont un peu sceptiques parce que justement, c'est compliqué. Donc comment on fait un master ou plus quand on n'a pas d'archives? Ben, il faut tourner autour, il faut trouver... Enfin bon, moi, c'est ce que j'ai fait par ailleurs, mais c'est assez amusant quand même. Mais ça demande un peu de confiance en soi.
Et est-ce que ça serait intéressant de poursuivre ce travail de recherche qui vient d'être entamé avec ce livre dans un autre contexte, par exemple l'université?
C'est-à-dire les femmes universitaires, tu veux dire?
Non, je veux dire, est-ce que ce texte qui vient d'être écrit et qui vient d'être édité par la cabane, est-ce que ça pourrait aussi devenir une habilitation? Est-ce que ça peut devenir autre chose?
Oui. Il y a toujours cette ambiguïté entre le fait qu'on a envie ou pas d'être habilité par les grandes instances, ou est-ce qu'on a envie d'être plus dans le souterrain et de ne pas s'inscrire là-dedans. C'est une question que je me pose et que posait Tristan Garcia, qui a parlé de ça lors du séminaire organisé aux Beaux-Arts. Parce que vouloir être validé par les grandes instances, ça veut dire valider nous aussi ce qui se passe dans la société, ce qui est en partie, enfin voilà, ce qui peut être attirant, et en même temps résister, ça peut aussi être de faire les choses en sous-main et justement ne plus vouloir être validé. Je sais pas, j'hésite encore.
Et là, il y a une contradiction qui s'installe, parce que tout à l'heure, quand on a posé la question, comment elle va laisser les traces ?
Ouais, non mais bien sûr. Non mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre ces deux positions, les deux sont intenables, de vouloir à tout prix être validé ou de vouloir passer inaperçu. Passer inaperçu, ça veut dire aussi ne pas laisser de traces, et ça c'est pas mon ambition, parce que je voudrais qu'on réfléchisse à cette question-là.
Merci beaucoup, Corinne.
Merci, Nadia.
À bientôt.
À bientôt.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadialistique.